When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2009 et c'est l'épisode numéro 22. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, Google, Microsoft, Apple, etc., etc. Aujourd'hui,
et Twitter, et Twitter.
Et Twitter, évidemment. Aujourd'hui, on va parler surtout Chrome, je pense. Déjà, la dernière fois, avec Cédric, on avait beaucoup parlé de... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Chrome. On va parler de Chrome, effectivement, mais je voulais dire Google. On a beaucoup parlé de Google la dernière fois, on va en reparler aujourd'hui. Et en plus, on a Yann, donc Yann va être super content qu'on parle du cloud, je suis sûr.
je suis content parce que pour une fois que je vais pouvoir bien lâcher mon venin sur exactement ce que j'aime pas dans le cloud. Et là aujourd'hui, on a vraiment un sujet où je vais pouvoir mettre les pieds dedans et pouvoir dire exactement ce que j'aime pas, quoi.
Eh ben écoute, on s'en réjouit à l'avance et Jeff est là aussi bien sûr. C'est bon, j'aime bien quand on a nos épisodes spéciaux avec d'autres animateurs, tu vois, ça on peut changer un petit peu, mais mine de rien, quand vous revenez une fois sur deux tous les deux, moi ça me réjouit quand même toujours. Je suis bien content.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Comme je disais, des gens qui sont pas d'accord avec toi en fait.
Exactement. Comme je le disais pré-émission, j'étais tellement content de vous retrouver aujourd'hui que j'ai pris mon headset et je l'ai cassé en deux parce que j'ai mis trop d'énergie. Mon casque.
Micro.
Headset, tout le monde sait que headset ça veut dire casque, faut pas exagérer, non?
Je crois qu'on dirait headset en français.
Headset.
Et pas headset.
H. Salut tout le monde.
Donc, salut à vous deux, salut à la chatroom qui nous suit aussi fidèlement. Merci à vous d'être là, nombreux. Je leur dis bonjour directement dans la webcam. Et avant de nous lancer dans l'émission en elle-même, je voudrais remercier ceux d'entre vous ceux des auditeurs qui nous ont laissé un petit pourboire, parce que là, ça y est, je crois que c'est parti, hein, les gars. Les serveurs vont pouvoir tourner à fond, ils auront de quoi être payés. On a eu des pourboires en quantité cette fois-ci. Donc je remercie très 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 chaleureusement Cassim, Mathieu, Samuel, Romain, Gérald, Bertrand et un énorme, énorme merci à Erwan et Bruno, plus particulièrement Erwan d'un côté et Bruno de l'autre, je pense qu'ils se reconnaîtront. Donc voilà, merci à vous, c'est super sympa de nous avoir soutenus. Et sur ces bons mots, on va se lancer dans notre premier sujet pour cette émission avec un petit jingle fait spécialement pour le sujet et pour l'un des deux animateurs. Vous allez entendre de quoi il s'agit tout de suite.
Hé, hey, Yann, maintenant, nous allons parler du cloud. Tu vas kiffer.
Énorme.
Donc voilà.
Ok, bring it on.
Déjà, tu vois, c'est clair dès le début. Alors, le truc dont on va parler en premier lieu, c'est Chrome OS. Alors, Chrome, ça vous dit quelque chose? C'est le navigateur internet de Google que nous utilisons tous déjà depuis quelques mois. Et Chrome OS, c'est ce truc dont on avait parlé il y a déjà quelques temps aussi, c'est-à-dire un système d'exploitation comparable à Windows, Linux ou Mac OS, développé par Google. Donc Google vient véritablement grignoter les plates-bandes de Microsoft, d'Apple principalement de Microsoft et d'Apple. Le truc, c'est que Chrome OS est un système d'exploitation un petit peu particulier et il a été présenté cette semaine au public, ce qui est relativement rapide parce qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. D'un autre côté, il faut dire que le système d'exploitation est très très simple et comme je le disais, très particulier. Bah, On lançait la pique à Yann. Peut-être qu'on va laisser Yann. Est-ce qu'on te laisse expliquer de quoi il s'agit ou est-ce qu'on te laissera plutôt cracher dessus?
Je pense que si tu me laisses expliquer, ça va dégoûter les gens direct, quoi. Donc, je préfère vous laisser déjà encenser le truc tel que je vous connais. Et puis moi, je donnerai un petit peu. Mais je suis pas complètement négatif, hein, mais c'est juste que voilà, je reste un petit peu plus mesuré par rapport à l'opinion globale, quoi.
Ah bon, on va voir. Si ça se trouve, nous aussi, on sera mesuré. Alors, Chrome OS, de quoi il s'agit ? En fait, c'est un système d'exploitation qui est entièrement tourné sur le fait d'être connecté et sur Internet. En gros, Chrome OS, c'est un système d'exploitation où on n'a quasiment que le navigateur Internet. Le navigateur Internet étant Chrome, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est prévu pour être installé sur des machines super légères, des petits netbooks, qui seraient connectés en permanence, et ces machines-là n'auraient pas de logiciel installé sur elles-mêmes. C'est-à-dire que au lieu de lancer un logiciel comme Word ou d'autres logiciels Office, eh ben, on n'aurait que le navigateur Internet qui va aller se connecter sur le site de Google Docs, par exemple, et on travaillerait ces documents sur le web, sur Google Docs ou sur Office Online, par exemple, le jour où il sortira, etc., etc. C'est-à-dire que la seule fonction de ce système d'exploitation, c'est de vous afficher des pages Internet et à partir de là, plus rien n'existe sur votre ordinateur en lui-même, vos documents, vos emails, vos contacts avec vos chats, par exemple sur Facebook ou sur d'autres services du type. Tout se passe sur le web et vous n'avez qu'une machine super, super légère pour y accéder. Alors, là, c'est la base. Évidemment, quand c'est présenté comme ça, il y a certains avantages. Le fait, par exemple, que la machine démarre très, très rapidement. On parle d'un démarrage en quelques secondes. Du moment où on l'allume au moment où elle est opérationnelle, il se passe 5, 6, 7 secondes au maximum. Il y a d'autres avantages qui sont qu'on n'a pas à s'occuper de l'installation des applications. Donc, quand on achète un nouveau...
C'est normal, il n'y en a pas.
Voilà, c'est ça, il n'y en a pas. Donc, quand on achète une nouvelle machine, on l'allume, on rentre son mot de passe Google, par exemple, et on a accès à toutes ces applications Google, puisqu'elles sont sur le web. On n'a pas besoin de sauvegarder ces informations, puisque là encore, elles sont directement sauvegardées sur le web. On peut avoir 5, 6, 7, 8... machines différentes auxquelles on accède, par lesquelles on accède à ces informations. Et là encore, on n'a pas besoin de synchroniser entre chacune puisque tout est à l'extérieur. Vous allez rire quand je dis 5, 6 ou 7 machines, mais on n'en est pas si loin que ça. Par exemple, moi, je prends mon cas, j'ai mon ordinateur à la maison, j'ai mon ordinateur au bureau, j'ai mon ordinateur portable que je prends de temps en temps avec moi en voyage, etc. J'ai mon iPhone. Et toutes ces machines sont des machines indépendantes. Si je devais avoir, par exemple, mes emails transférables de l'une à l'autre, ça serait infernal. Donc, j'utilise évidemment Gmail qui me permet d'avoir mes emails directement accessibles où que je sois. Je pense que c'est une image relativement complète de ce Chrome OS. Donc, il permet de se passer complètement de Windows ou de Mac OS. En spécifiant qu'il y a des utilisations, que ce sont des utilisations particulières. Par exemple, lors de la présentation, ils ont bien précisé que ça n'était pas fait pour tout le monde. Si on est un avocat qui doit éditer des documents en permanence pendant un voyage, par exemple, il est évident que cette machine ne sera pas forcément faite pour vous. Je pense que j'ai été assez clair sur la présentation. Ouais. Jeff, est-ce que tu as des trucs à rajouter avant qu'on passe la parole à la première salve de critique ou d'appréciation à Yann ?
Non, tu as bien résumé la valeur en fait de Chrome OS qui est de tourner sur des machines qui sont soit des vieilles bécanes qui ont pas forcément de quoi faire tourner un OS qui est à jour mais qui pourrait très bien fonctionner avec quelque chose de très lightweight. Donc je vois vraiment un segment dans le Linux ou le Linux en BD embarqué qui peut être intéressant, mais pour l'utilisateur assez lourd tel que nous, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant du tout.
Bah, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent des machines, enfin, a priori, le marché qu'ils visent sont des machines très bon marché, autour des 200-250 $. Donc, c'est presque, bon, sans non plus exagérer, mais c'est presque des machines jetables dont ils parlent. Donc, là où on commence à parler de machines super légères et super rapides, comme on n'a pas de besoin de stocker beaucoup de choses sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'un gros disque dur, on n'a pas besoin d'un gros processeur, etc., etc., c'est vrai qu'on peut avoir des machines super bon marché. Donc ça c'est la base. Vous remarquerez que j'ai pas encore dit exactement ce que j'en pense. J'aimerais bien entendre ce que va dire Yann, parce que contrairement à ce que certains pourraient attendre, je pense qu'on va être relativement d'accord. Mais on va voir. Yann, vas-y. Lâche-toi.
Écoute, moi j'étais vraiment très réservé par rapport à Chrome OS quand je l'ai vu la première annonce. On n'avait pas encore vu, on savait pas comment ça allait être. Là, ça se concrétise et déjà tout le monde s'est extasié devant le temps de démarrage. Ouh là là, c'est 7 secondes. Déjà, il faut voir que les démos qu'ils ont faites avec leur démarrage en 7 secondes, c'est sur un disque SSD, OK? Donc quand on parle d'un portable, d'un notebook à 200 $ jetable, rien qu'un disque SSD d'une taille raisonnable, tu vois, c'est déjà hors de prix. Donc faut remettre déjà, enfin, c'est pas ça, rien d'extraordinaire de booter en 7 secondes sur une machine aussi légère, quel que soit le système d'exploitation, partir de disque SSD.
Ça veut pas dire que ça sera pas le cas, parce que leur système est à,
Si, ce sera le cas, mais il y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que, une machine juste avec un OS, juste avec un navigateur, moi je te dis, ma PS3 elle démarre en 7 secondes aussi, j'ai un navigateur dessus. Donc, tu vois, rien que ça, moi ça me bluffe pas tant que ça, quoi. Après, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on n'avait pas la possibilité d'installer des applications. Ce qui est encore plus incroyable, comme le faisait remarquer Morgoth sur la chatroom, c'est qu'on peut même pas installer des applications Android. Ce qui est incroyable, ils ont quand même un pool d'applications sur leur propre plateforme, leur propre système d'exploitation mobile, et ces applications, on peut pas les installer sur Google OS, sur Chrome OS. Donc, je trouve ça un petit peu fort. Et même pour regarder un film, enfin, ils montraient un extrait de trailer ou un truc comme ça. Mais même un pauvre codec, un codec pour regarder un DivX, on va pas pouvoir l'installer sur cette machine. Donc, c'est quand même incroyable de se dire qu'on a un ordinateur, mais qu'on peut rien installer dessus. Je veux dire, c'est pratiquement une calculatrice, quoi, le truc. C'est super limité. Je faisais pareil avec ma Casio. Donc, pour finir, le cloud, enfin, Chrome OS représente exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le cloud. Attention, il faut bien me comprendre. Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un site web, avec HTML5, etc. Mais je trouve que faire un système d'exploitation basé sur un navigateur, c'est un peu revenir en arrière, parce qu'on est en train de brider, de limiter le panel d'utilisation que peut avoir un utilisateur avec son ordinateur. Tout se fait via le navigateur, et des tâches simples comme pouvoir retoucher une image photo, par exemple, t'as pris une photo avec t'as le problème des yeux rouges là. Comment tu vas enlever les yeux rouges sur ton navigateur? T'as besoin d'un petit truc, quoi, un petit logiciel qui d'édition ou retailler la tête d'une image, un truc comme ça.
Pour te répondre sur ces choses-là, il y a Adobe Photoshop.com. Photoshop.com qui fonctionne très bien pour ces petites tâches.
Tu es obligé tu uploads ta photo qui est maintenant avec les appareils photo de 12 mégapixels, elle doit faire au moins 8 mégas ta photo. c'est pas, il faut l'uploader, après la retélécharger, la stocker quelque part dans le cloud. Enfin, c'est pas aussi pratique que brancher ton truc sur ton PC. T'as un logiciel directement intégré à Ubuntu ou à Windows qui te permet de redimensionner la taille de ton image. C'est des trucs tout con, quoi. Une calculatrice, tu sais, même une simple calculatrice. Tu veux faire un calcul tout simple, t'es obligé d'ouvrir une page web pour faire un calcul. Tu veux écouter de la musique, à qui ce n'est jamais arrivé d'écouter un podcast, par exemple le Rendez-vous Tech, c'est un excellent podcast, d'écouter un podcast ou même de la musique sur Deezer dans un onglet, et après tu ouvres d'autres onglets, tu commences à naviguer, après tu as fini de faire tout ce que tu voulais faire, et tu fermes ton navigateur, et là la musique se coupe, ton podcast se coupe, parce que tu avais oublié que ton podcast était en train d'exister, en fait, ta musique que tu écoutais existait dans ton navigateur. Pour moi, ce sont vraiment deux types d'applications différentes.
Je crois que là tu donnes une appréciation qui est... c'est pas totalement faux ce que tu dis, hein. Il y a du vrai à mon sens, mais tu juges quand même ce système d'exploitation avec des standards et des habitudes d'un système d'exploitation différent, d'un système d'exploitation classique. Moi, je pense que il est aussi tout à fait imaginable qu'on change un petit peu nos habitudes avec un système d'exploitation de ce type-là, de Chrome OS, et que des choses comme, par exemple, le fait de retoucher les photos qui font 12 mégapixels, enfin, qui sont énormes, comme tu le disais, c'est pas forcément un réflexe qu'on a aujourd'hui avec le web. Moi, je mets mes photos sur Flickr. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent leurs photos sur Facebook. Si on veut les garder pour les garder super longtemps, effectivement, on va pas les mettre sur Flickr ou sur Facebook. Ou, enfin, encore que, hein, sur Flickr, ça se fait aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appareil principal, l'ordinateur principal, existera toujours. Chrome n'est pas prévu pour remplacer l'ordinateur principal. Alors que, donc on aura toujours notre ordinateur principal, on aura ces applications un petit peu lourdes, etc., qui permettront de faire des choses comme ça. Chrome est prévu pour un ordinateur en plus, qu'on prend un petit peu partout, qui est pratique pour faire des trucs sur le web rapidement, mais qui ne remplace pas entièrement tout. Et de ce point de vue, ça peut apporter des choses intéressantes, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir absolument toutes ces applications lourdes sur un petit ordinateur, comme je le disais, presque jetable.
Ouais, mais je sais pas. Quitte à avoir un truc portable, parce que c'est un netbook, autant mettre un Ubuntu ou une SUSE ou un OS léger dessus, et
tu vois pas que c'est plus compliqué d'avoir, si on ne se sert de cet ordinateur que pour accéder à Internet, en fait, que pour avoir ces applications qui sont sur Internet, que ce soit Gmail, Google Docs, d'autres, hein, Flickr, Facebook, Twitter, il y en a énormément, tu vois, il y a une énorme partie de notre vie sur l'ordinateur qui se passe en ligne aujourd'hui. Moi, pour moi, ça doit représenter, je sais pas, peut-être 70% de ce que je fais sur mon ordinateur, c'est en ligne.
D'accord. Donc donne-moi juste, à part le temps de démarrage qui est faible, donne-moi une raison pour laquelle tu voudrais te brider entre avoir un netbook juste avec un navigateur et avoir un netbook avec un Ubuntu plus un navigateur dessus pour le même prix.
Parce que j'ai pas besoin. Je peux donner ma raison. En fait, si j'avais accès à ça aujourd'hui, je mettrais ça sur l'ordinateur de mon papa et ma maman de manière à ce que j'ai plus à faire de la télémaintenance de leur putain de boîte email. Pardon, j'ai dit plein. Une partie de mon dimanche en accédant en remote monitoring au travers de Microsoft, Instant Messenger, etc. parce que ça marche plus pour une raison ou pour une autre. Et donc je pense qu'il y a un segment de marché où la notion d'avoir un OS qui est très 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 simple, où il y a très peu de choses installées en local, a un sens. Et je pense que toi, Yann, c'est même pas en rêve que tu seras un jour un profil d'utilisateur qui sera à même d'utiliser ce produit parce que c'est trop limité. Et c'est pareil pour moi, et je pense que c'est pareil pour Patrick.
Mais bah, oui et non, avis, moi. Pour mon ordinateur principal, effectivement, il me faut toutes ces possibilités. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un PC, entre autres, c'est pour ça que j'ai un PC et pas un Mac, parce que le Mac, mine de rien, d'une certaine manière, est un peu plus limité dans les choix d'applications. Je veux pas relancer le débat là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a moins, ne serait-ce qu'au niveau des jeux, par exemple. Mais pour mon ordinateur portable, qui est juste là avec la petite webcam, moi, j'ai aucune raison d'avoir un Windows à maintenir, à mettre à jour, avec des applications installées. Ça ne me sert à rien. La dernière fois que j'ai réinstallé Windows dessus, j'ai installé Google Chrome, justement, et basta. Et le reste ne fait qu'encombrer l'utilisation de mon ordinateur. Alors, pourquoi pas n'avoir que le navigateur ?
Je sais pas. Je
sais pas. C'est un soupir ça, lourd de signification.
Non mais. Ok, et d'accord,
puis,
Patrick.
Et puis, n'oublions pas une autre chose aussi. Le système est prévu pour sortir dans un an de manière utilisable. Donc. Mm-hmm. D'ici là, les applications web auront encore évolué et seront encore meilleures. Déjà qu'aujourd'hui, il est possible d'éditer des photos, de faire du montage vidéo, de faire des choses incroyables sur le web. D'ici un an et plus, les choses vont encore aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est un point important. Il y a un autre point important qui est que, de cette manière, Google dynamise aussi, à mon sens, un marché de systèmes d'exploitation un petit peu poussiéreux. Ils sont entièrement open source, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des modifications intéressantes de ce projet pour d'autres utilisations. Et enfin, une dernière chose que je tiens à dire, qui est peut-être un petit peu plus critique et qui, là, remet les choses en perspective, c'est le fait que évidemment, vous l'aurez compris, mais ce système d'exploitation présuppose qu'on est connecté en permanence. Et quiconque a utilisé un téléphone portable comme un iPhone ou un Android sait qu'on n'est pas connecté 100% du temps. On a toujours un moment où on est un petit peu plus ou moins connecté. Donc, à mon sens, ce Chrome OS, c'est un regard vers le futur et le début d'un projet qui n'arrivera à son potentiel maximum que dans 2, 3, 4 ans. Donc, c'est intéressant, c'est enthousiasmant, mais ce n'est pas non plus demain que ça va devenir super utile et utilisable, en tout cas.
Un petit peu comme Google Wave, quoi. Enfin, je me comprends.
Ouais. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord.
D'accord. Ouais, enfin, autant Google Wave, tu as un feedback qui est assez unanime en disant OK, c'est bien techniquement, mais ça sert à quoi ce truc au juste ? Autant truc comme l'OS, hein, tu vois qu'il y a une génération de machines, les netbooks, etc., qui ont une raison d'être ou une raison d'utiliser ce genre de produit. La notion de il faut être connecté 100% du temps, je pense que c'est pas réaliste. Il faut voir comment ça sera installé en local, etc. Et comment tu fais. Une utilisation au minimum un petit peu déconnectée, parce que c'est pas fiable aujourd'hui, surtout aux États-Unis, de dire c'est du 100% connecté. Mais tu vois, par exemple, mon copain Tariq chez Jolly Cloud, anciennement et avant fondateur de NetVibes, travaille aussi sur cette opportunité-là avec sa propre version de Linux. Donc il y a un énorme marché qui s'est développé, il y a un besoin d'OS, voyons un peu comment ça se passe. Et la façon dont moi je vois les choses, c'est que à mon avis il y a un espèce de continuum que Google va essayer d'établir entre Android et Chrome OS, de manière à ce que ce soit une expérience assez consistante, un peu dans la façon dont Microsoft parle des three screens, des trois écrans. Le mobile sur Windows Mobile, Windows 7 sur le PC, et puis Windows Media Center pour la télé.
Oui. Ça, on peut imaginer, par exemple, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, à vrai dire, c'est une première présentation et on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans le futur. Si vous voulez voir un petit peu la présentation, on mettra des liens sur la page web de l'émission et vous pourrez en juger par vous-même de ce que ça donne. Et puis, encore une fois, c'est le tout début d'une aventure qui peut être intéressante en elle-même et, à mon sens aussi, pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière des systèmes d'exploitation qui est un tout petit peu paresseuse depuis quelques années. Et puis, il y a une autre nouvelle qui est presque en rapport avec Chrome, c'est les nouvelles d'Office 2010 bêta. C'était marrant parce que dans la présentation de Chrome, justement, il présentait une des applications, il disait, si jamais on a un document sur une clé USB, parce qu'évidemment Chrome OS peut lire les clés USB ou les photos de votre appareil photo, etc. Il pourra imprimer aussi, c'est pas uniquement le navigateur, mais si vous avez un document Excel, par exemple, quelque part sur votre disque dur ou sur la clé USB, forcément, vous n'avez pas Excel sur votre ordinateur avec Chrome OS, donc vous ne pouvez pas le lire. Eh bien si, parce que quand il va voir que c'est un document Excel, il va de lui-même appeler la page web de du tout dernier service de Microsoft, qui est un cadeau énorme à Google Chrome, c'est-à-dire Office 2010 Live, qui est une version web de Office, donc il y a Excel, Word, etc. sur le web, et vous allez pouvoir visionner et travailler sur vos documents Excel, Word ou PowerPoint ou ce que c'est directement depuis le web. Et ça a été présenté, Office 2010 a été lancé en bêta il y a quelques temps. Je ne sais pas si l'un de vous a eu l'occasion de l'utiliser. Moi, je l'avais vu lors de la conférence de presse de rentrée de Microsoft il y a quelques temps.
Non, j'ai vu quelques vidéos, mais j'ai pas eu l'occasion de tester, non.
D'accord. Écoute, en dehors de la version web, qui marche très très bien et qui ne modifie pas, c'est-à-dire que vos documents Word, Excel, etc., une fois qu'ils sont passés par cette moulinette sur le web, ils restent entièrement lisibles par vos autres documents, par vos autres applications Office. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnalités un petit peu limitées sur le web, mais par contre, le document reste entièrement cohérent par rapport à votre document que vous utilisez sur votre ordinateur de bureau régulier. Donc ça, c'est une chose importante parce que les gens qui utilisent Google Docs, par exemple, ça vient que Google Docs, c'est très pratique, tout ce qu'on veut. veut, mais les possibilités sont relativement limitées. Et un document Google Docs, c'est presque un squelette de document comparé à ce qu'on peut faire avec les applications Microsoft. Donc ça, c'est important. Mmh. Les documents resteront entiers avec Microsoft Office Live. Et un autre truc intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont intégrés dans Outlook avec Office 2010. Donc on aura Twitter, Facebook, etc. directement dans Outlook. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que Outlook, c'est effectivement notre centrale de communication. Et nos réseaux sociaux devenant d'autres, de plus en plus d'autres vecteurs de communication, c'est pas bête de les intégrer à Outlook. Alors quelle forme ça va prendre, je sais pas, mais
c'est si, plutôt... j'ai vu un petit peu des prototypes de l'intégration de ces réseaux sociaux justement dans Outlook. Ils appellent ça le Outlook Social Connector. Et en fait, ils ont un petit panneau qui est en bas. Enfin, quand Outlook est en plein écran, en bas à droite, ils ont un petit panneau qui est réservé à la présentation des infos supplémentaires par rapport à la personne que tu as sélectionnée dans ton mail. Donc voilà. Je clique sur Patrick, j'ai reçu un mail de Patrick. Eh ben, en bas, j'ai toute l'actualité de Patrick sur Twitter, sur Flickr, sur Facebook. Tout ce que finalement, pardon, tout ce que Office a réussi à récupérer par rapport aux données publiques que tu as sur le web, ben, il les agrège toutes à l'intérieur d'Outlook et comme ça, en un clic, je peux apprendre des choses sur toi que je ne savais pas par rapport au
changement
qu'on avait avant. Quoi.
On sait tout sur toi, Patrick. Non,
ça veut dire que quelqu'un qui a un mail professionnel, par exemple, un truc super Exactement. Sérieux, j'envoie un email à quelqu'un, il a Outlook et directement il a accès à toutes les âneries que je fais sur Facebook.
Avec les images et tout, donc c'est faut faire gaffe.
Les photos compromettantes, les vidéos ignobles et tout.
Faites gaffe quand vous envoyez votre CV. Hein.
Tu as deux produits aujourd'hui qui font ça un petit peu. Tu as l'add-on. Oui, tu as l'add-on de LinkedIn qui fait ça pour la partie en fait information sur ton social graph professionnel. Mais comme maintenant dans LinkedIn, tu peux avoir l'intégration directe de ton Twitter, tu vois aussi le Twitter. Et effectivement, tu as Zobni qui.
Zobni avec un X, hein. Pas
Zobni avec un
X. Zobni avec un X, oui, pas avec un Z.
Ouais, mais le X, on le prononce The ici. Donc,
Oui, tout à fait.
On dirait Zobni en France, mais c'est Zobni aux US. Et donc Zobni va te montrer les différentes informations disponibles à propos de ton interlocuteur, ainsi que certaines statistiques comme quelles sont les 25 personnes avec qui tu emails le plus et combien de temps tu as passé à faire des emails, ce genre de choses.
D'accord. Bon, donc c'est un. Mais là, ça sera une fonctionnalité que tout le monde aura par défaut avec Office. Ça sera intéressant. Une autre grosse information qu'on a eue, c'était il y a une petite dizaine de jours, c'était une grande annonce fracassante de Rupert Murdoch. Pour ceux qui ne le savent pas, Rupert Murdoch est l'actionnaire principal du groupe News Corp, qui est un énorme groupe média aux États-Unis. Il a annoncé, il a déclaré qu'il en avait marre de Google News, que Google News prenait son business, prenait les informations qu'il mettait énormément d'argent à investir, et il annonçait que je ne dise pas de bêtises, News Corp, c'est Time.
Comment s'appelle le truc anglais là? Sun, voilà.
Voilà, donc c'est principalement. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais principalement.
Oui, c'est énorme.
News Corp, c'est monstrueux. Mais principalement sur ces deux journaux que portait la controverse, parce que, comme vous le savez, Google News fait une agrégation de différentes sources de news et également du Times et du Sun et d'autres. Et Rupert Murdoch disait: j'en ai marre qu'ils nous prennent nos news, donc à terme, on va mettre tout notre contenu, et notamment du Times, derrière un portail payant, et on ne sera plus sur Google News, sur Google Actualité. Et ça pose une énorme question, parce que Rupert Murdoch est un milliardaire de l'information. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère quand il dit des choses de ce genre-là. D'un autre côté, le principe même de Google News, c'est qu'on va avoir une partie des informations directement disponibles sur Google News, mais d'un autre côté, comme énormément de gens passent par Google News pour aller ensuite ailleurs, ça ramène énormément de trafic aux sociétés de Rupert Murdoch. Donc, Est-ce qu'il est vraiment judicieux de se dire on va virer toutes les informations de Google News et ne plus apparaître dans ce répertoire immense de news ? Moi, ça me paraît quand même horriblement risqué, pour ne pas dire plus. Mais d'un autre côté, si Murdoch dit oui, ça peut marcher sans passer par Google News et je préfère avoir moins de lecteurs qui payent que énormément de lecteurs qui ne payent pas, il sait de quoi il parle. Donc, qui a raison dans l'histoire, c'est difficile.
En même temps, il se dit que ça peut être très très difficile de faire un truc comme ça, mais il dit que ce sera beaucoup plus simple si d'autres emboîtent le pas. Hein, donc en fait, il essaie de mener une sorte de front pour pouvoir. En fait, le fond de sa pensée, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que il estime que beaucoup de gens, beaucoup d'internautes, ne reconnaissent pas à leur juste valeur les contenus de haute qualité qui sont disponibles sur le web, et donc du coup, il pense aussi que il faudrait essayer de rendre certains contenus de haute qualité payants. Alors trouver des différentes solutions, mais le tout gratuit n'est pas forcément une solution viable à long terme. C'est ce que j'ai compris en fait dans ses propos. Et c'est vrai que alors quand je vois des sites comme PC Impact, qui est très connu dans la sphère francophone, qui est un site qui parle des nouvelles technologies, eux aussi ont fait le switch de proposer une formule payante. Et ce qui est très difficile, c'est que quand vous avez commencé à proposer du contenu gratuitement, c'est très difficile après de changer la donne et dire ah ben finalement ce truc là qu'hier vous aviez gratos, mais aujourd'hui ça va vous coûter $10 par mois. Et donc c'est vrai que dans une démarche comme celle qu'il est en train de proposer, si les autres ne suivent pas, ça risque de poser problème. Si le concurrent lui continue de proposer gratuitement, l'internaute préfère rester chez les gens qui sont gratuits. Donc moi je comprends un petit peu son point de vue, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et les gens pensent souvent que c'est un dû, quoi, d'avoir tout gratuitement sur Internet, parce que Internet, c'est les 70s, et c'est gratuit, et c'est love and peace, quoi. Mais c'est pas ça.
Ouais, en fait, le pari de Murdoch, et ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas arrivé là où il en est en étant la moitié d'un abruti, quoi. Donc, aujourd'hui, et il faut savoir aussi que son principal conseiller dans le monde internet, c'est John Miller, l'ancien patron de AOL. Et donc, si ces gus ont décidé de faire le pari de retirer en fait leur news de Google News pour essayer de créer en fait un sentiment chez l'utilisateur qu'il n'a plus accès au contenu de qualité, donc il doit aller le chercher quelque part ailleurs. C'est un gros pari, mais ça paraît pas complètement débile, parce qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement qui est on met tout dans Google et en fait on attend que Google nous distribue du trafic en fonction de la façon dont ils vont présenter l'information dans les searches, Google News, etc. Ça marche pas, parce que c'est un trafic de visite unique. Donc ils arrivent sur la page et ils dégagent. Et donc c'est pas de la monétisation. C'est pas du trafic qu'on peut monétiser de façon efficace, quoi. Donc ce qu'il faut savoir quand on dit qu'est-ce que ça veut dire pour un titre de plus voir le trafic de Google News, c'est vrai que on ne verra pas les visiteurs uniques, on ne verra pas les page views, mais la question, c'est comment est-ce que tu vas monétiser ce type d'utilisateur, et la réponse, c'est pas bien de toute façon. Donc, ouais. En gros, c'est zéro d'un côté, c'est zéro de l'autre.
Bah, c'est vrai que c'est un truc, une situation compliquée, d'autant plus que, à mon sens, enfin, je veux pas me substituer au jugement de Rupert Murdoch, mais il se base sur le modèle du Wall Street Journal, qui est une autre des propriétés de News Corp, qui est un journal qui est payant depuis très longtemps, et qui fait de l'argent sur Internet. Enfin, il y a des abonnés, en tout cas. Mais le problème, c'est que le Wall Street Journal, c'est un journal tellement particulier sur la bourse, sur l'actualité financière. Je ne suis pas certain que ce même modèle de journal et de site payant fonctionnerait avec un journal généraliste comme le Times ou le Time ou d'autres. À mon sens, l'essentiel du problème que va rencontrer Murdoch, c'est ce dont parlait Yann, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre pour donner cette information. Et il se base sur un modèle qui est là encore un petit peu ancien, et le fautif n'est pas Google, c'est le web, quoi. Le fautif, c'est la technologie qui évolue et qui fait que la société évolue. Et c'est un modèle qui est ancien, où on avait besoin de payer sur du papier qui allait nous amener les informations. Aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui est good enough, c'est-à-dire qui est suffisamment bon, qui n'est pas super, mais qui est suffisamment bon, quelque chose comme Google Docs, par exemple, on en parle souvent pour documents de travail, c'est good enough. Moi, ça me suffit pour une bonne partie de mes applications. Et donc, j'ai pas besoin de quelque chose de plus compliqué. À mon sens, il devrait réfléchir à d'autres modèles. Enfin, plutôt que d'essayer, voilà en gros ce que je dis, c'est que plutôt que d'essayer de limiter les endroits dont on doit où on peut accéder à l'information, il devrait essayer d'être à autant d'endroits que possible et diffuser leur information autant que possible, plutôt que d'imaginer que en mettant leur information uniquement sur un site web à eux, ils vont pouvoir la contrôler. À mon sens, c'est un mauvais calcul. C'est un calcul qui est du web de 97-98, et c'est plus comme ça que le web fonctionne. Et plus ça va, moins le web fonctionne comme ça. Parce que même si on va pas perdre son temps à aller voir l'information sur le Time, on l'aura déjà eu ailleurs par quelqu'un d'autre, parce que tout va de plus en plus vite. Donc peut-être qu'il y a une valeur ajoutée qu'ils peuvent créer. Je ne sais pas comment elle peut être créée. Et une dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que l'idée qu'on ne peut pas proposer un service gratuit en faisant de l'argent est fausse. Il faut imaginer la manière dont on peut le faire. Mais si on vous avait dit au début des années, au début du siècle, on va proposer des productions télévisuelles à plusieurs millions de dollars l'épisode et on va le faire gratuitement sur vos télés, on nous aurait traité de malades mentaux. Et ben, on a trouvé des solutions, que ce soit par la pub ou par d'autres moyens comme les chaînes payantes. Bref, vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais, mais justement, les chaînes payantes, tu payes.
Voilà, c'est payant.
Ton bouquet
payant, tu l'as avec la distribution, c'est-à-dire que tu vas payer. Alors, prenons l'accès au réseau, et avec l'accès au réseau, tu vas payer pour le contenu. Et c'est un paradigme que tu n'arrives pas à transcrire du côté internet.
Est-ce
que
je voulais dire, Patrick, alors ça c'est le cas des chaînes.
Ce que je voulais dire, c'était que c'est pas parce que tu retires ton contenu de Google que tu retires l'ensemble du contenu. C'est-à-dire que tu peux dire je retire tous les articles, mais tu peux très bien laisser les excerpts, tu peux te laisser le premier paragraphe. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver de l'information sur le Wall Street Journal, et il va après te dire si tu veux avoir accès au paragraphe suivant, au reste de l'article, tu vas payer. Et donc, quand il dit je me retire, ça veut pas forcément dire je me retire complètement.
Ah oui, bon, alors il joue sur les mots. Il est possible qu'il bluffe un peu aussi pour faire bouger les choses. Hein. Enfin bon, on va...
Et puis il y a Google et puis t'as Bing.
C'est vrai. Est-ce qu'il va jouer Bing contre Google?
Parce que si je te dis demain, tiens, tu peux trouver l'ensemble de toutes les infos sur Bing News, mais c'est plus sur Google News, parce que Bing News, en fait, a payé un fric absolument monstrueux avec à Murdoch en termes de contrat avec un minimum plus très cher... mais pour avoir accès à l'information, il faut aller chez Bing. Ce serait pas idiot.
Donc il y aurait des moyens de garder ces informations totalement gratuites.
On verra bien.
Je vois que vous n'êtes pas convaincu. Dans tous les cas, c'est sûr, ni Google ni Rupert Murdoch n'a véritablement la solution parfaite, il est certain que c'est pas nous qui allons l'imaginer ici. Enfin, vous peut-être.
Je pense que, comme tu le dis, il y a énormément de parades autour de ce message qui est je retire mon contenu de Google, on part derrière un paywall, etc., etc. Mais ça se fait dans un contexte où Microsoft essaie vraiment de pousser Bing. Et je veux dire, j'ai vu Ballmer maintes et maintes fois taper son poing et dire on y va, et ça mettra 10 ans, mais on les aura. Et c'est le genre de tactique qui pourrait très bien amener quelques points de plus, ou plus que quelques points de plus, peut-être une dizaine de points de plus à Bing, s'ils avaient un contenu exclusif avec des news, des choses comme ça. Même si ça leur coûterait potentiellement des centaines de millions en termes de deal, de minimum, de rev share, etc. Je veux dire, c'est Microsoft, hein, donc ils peuvent se le permettre.
Et ça serait un retour de la concurrence intéressant sur ce marché aussi, ce qui ne serait évidemment que positif. Et à propos de Ballmer et de Microsoft, il a tapé du poing sur la table, bon, peut-être pas lui directement, mais dans le domaine du Xbox Live, il y a une semaine environ, les Xbox Live modés ont été complètement bannis du service Xbox Live. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les Xbox Live modés ? Je sens que Yann, je ne sais pas pourquoi, il saura de quoi il s'agit.
Ben, l'Xbox One S, c'est très simple, c'est juste une Xbox qui a été pour pouvoir jouer à des jeux de façon illégale, donc pouvoir les télécharger et y jouer sans devoir payer. Et
la particularité, c'est pas que ça peut permettre d'installer des logiciels différents sur sa Xbox.
Non, pas sur la Xbox 360.
Ah bon, d'accord, c'est midi.
Non, c'était uniquement sur la première Xbox, mais la 360, ça ne sert qu'à jouer au jeu de façon illégale.
Au jeu piraté, quoi, d'accord.
Ouais, tout à fait. Et comme tu le disais, Microsoft a tapé du poing et a définitivement banni donc une flopée d'Xbox 360
ouais,
qui ont été détectées comme étant modées, justement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Xbox qui étaient donc modifiées et piratées, entre guillemets, pouvaient toujours accéder au service de jeux en réseau, de jeux en ligne de Microsoft, donc le fameux Xbox Live.
Mais c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. Il y a eu à plusieurs reprises des vagues de ban. J'ai beaucoup de compagnons qui sont tombés. Et donc là, je crois que c'est avec Modern Warfare 2 qu'ils ont redétecté. Ils ont mis de nouveaux systèmes de détection. Ils ont décidé de refaire encore une rasée quoi. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont piraté le jeu. Donc ils ont détecté subitement beaucoup de gens et ils ont banni beaucoup de gens quoi.
Je sais pas si c'était lié à Modern Warfare 2, c'est possible. Mais effectivement, quand on dit ils en ont banni beaucoup, ça se compte en centaines de milliers. Hein. Donc c'est vraiment énorme. Donc, et c'est d'autant plus important que quand ils sont bannis, on peut plus les compter comme abonnés Xbox ou comme dans les chiffres.
C'est ce qui est marrant en plus, c'est que quand tu te fais bannir du Xbox Live, en fait, c'est ta console qui est bannie, mais pas ton compte. Toi, tu continues à payer tous les mois pour ton abonnement. Donc voilà quoi. Donc si tu veux conserver tes succès, tes trucs comme ça, faut continuer à payer et tu rachètes juste une nouvelle 360 quoi.
Ah donc tu peux racheter une console et tout va bien en fait.
Ah et tu récupères ton compte avec tous tes succès et tout. Voilà.
Attends, quand on te sucre ta console, tu peux plus l'utiliser, aller lockdown, tu peux plus rien faire.
Tu peux continuer à l'utiliser offline, mais c'est juste que tu peux plus te connecter, tu peux plus jouer en réseau, tu peux plus télécharger de démos, c'est juste une console locale quoi. Mais ton compte live, si tu vas chez un pote, tu te connectes avec ton compte live, ton pote qui est pas banni. Et tu peux envoyer des messages et tout, surfer avec ton compte. Il n'y a pas de problème.
Donc, c'est quand même quelque chose de complètement. J'ai l'impression qu'on l'a présenté comme une chose un petit peu sévère, mais ça me paraît normal comme réaction, le fait de bannir ses consoles. C'est pas parce qu'ils gardent le compte qu'on va.
Quand tu regardes ce que fait Sony, eux, ils ont un système similaire qui est entièrement gratuit. Le PlayStation Network, c'est exactement le même.
Non, mais on parle pas de la même chose. On parle pas du fait qu'ils soient payant ou pas. Une fois que la console est bannie, d'accord, on peut parfaitement arrêter interrompre son abonnement. Mais le fait qu'ils bannissent les consoles qui ont été modifiées pour jouer à des jeux pirates, ça me paraît raisonnable. Je veux dire, on n'est pas en train de dire, oulala, Microsoft, les super méchants, ils bannissent les gens sans raison.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, Code Program.
Je vous pose la question, hein, mais...
Bah oui, comme ça, dit comme ça.
Non, bah attends, de toute façon, si t'as, si t'as des activités illégales, illicites...
Pardon ?
J'ai des copains qui seraient pas d'accord avec toi, mais...
Des copains qui sont des voyous ?
T'es banni, oui, voilà.
Voilà, donc... mais oui, effectivement, dans le fond, si t'as pas acheté le jeu, on voit des super productions. Enfin, je participais à un podcast hier où une auditrice d'Irène, pour ne pas la citer... pour ne pas la citer...
Qu'on salue au passage,
disait que, par exemple, Uncharted 2, qui est un jeu énorme, a fait de très très mauvaises ventes et donc faut vraiment encourager les gens à acheter les jeux au lieu de les pirater, même si en l'occurrence celui-là il était pas piratable, plutôt que donc il faut quand même taper du poing sur la table, quoi, et pousser les gens à acheter
légalement. Uncharted 2 n'est que sur PlayStation, si je ne m'abuse.
Ouais, tout à fait. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont eu beaucoup de succès ont eu du succès via les réseaux pirates. Donc il faut quand même avoir un retour de bâton pour taper et dire que voilà, on peut pas impunément comme ça couler des studios de développement en piratant les jeux, quoi. Donc il faut quand même une punition, donc c'est normal.
D'ailleurs, petit entorse à ma déontologie habituelle, Modern Warfare 2 et Uncharted 2 sont des jeux excellents que je recommande à nos auditeurs. Voilà. Donc, ensuite, en parlant de Microsoft, une news qui est plutôt intéressante, c'est que le Zune va enfin arriver en Europe. Alors, le Zune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lecteur portable multimédia, donc MP3, on va dire, et même vidéo de Microsoft, dont l'équivalent d'un iPod. Et ben, il va enfin arriver en Europe et en France en 2010, très certainement. Et c'est une super nouvelle, vous n'attendiez que ça, n'est-ce pas ? Toi, Yann, qui est au Canada maintenant, tu t'es précipité chez ton revendeur de joujoux électroniques pour acheter un Zune quand t'es arrivé, n'est-ce pas ?
Une chose qu'on réalise au Canada, quand on y arrive, en fait, quand on est immigrant, c'est que au Canada, on n'est ni en France, ni aux États-Unis. Tu vois.
Ça, c'est très profond, Yann.
Ouais, je trouve que c'est quelque. Je pense que je vais y réfléchir pendant 2 ou 3 jours à cette.
Moi, j'étais à Vancouver la semaine dernière, je suis à Toronto la semaine prochaine, et il me semblait que quand t'arrives, c'est marqué bienvenue au Canada. Et non pas bienvenue dans le 51e.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ni les avantages de la France, de l'Europe, ni ceux des États-Unis. Donc, du coup, moi, le Zune, il n'est pas en vente ici. Il n'est pas en vente ici. Et là, quand tu dis qu'il sera en vente en Europe, je ne sais pas si c'est juste l'Europe qui va être visée ou ils vont vraiment l'ouvrir au monde entier. J'aimerais bien, parce que le Zune est vraiment un appareil qui est extraordinaire. J'ai vu plusieurs vidéos et il fait vraiment, il donne vraiment envie.
Tu l'achètes toi, le Zune ? Parce que la grosse blague, c'était que le Zune est le meilleur lecteur MP3 de 2006 ou 2007, en fait, avant l'arrivée de l'iPhone, avec son App Store et sa connectivité en permanence. C'est un excellent lecteur MP3, mais la grosse blague, c'est est-ce qu'il arrive pas trop tard, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est tu as un Zune, c'est le lecteur MP3 que personne n'utilise. Je veux dire, c'est tout. Moi, j'en ai eu un, je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai secoué, et puis je l'ai vendu à eBay sur eBay.
Le Zune HD.
Ah non, pas le Zune HD, non.
Ah d'accord. Parce que là. Là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le Zune ou le Zune HD ?
Ah non, le Zune HD, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, c'est le nouveau, avec écran large, etc. Oui, tout à fait.
Ok, très bien. Bah, franchement, moi, je ne pose pas la question.
C'est sympa. C'est sleek, c'est sympa, mais je sais pas.
Bon. Bah, écoutez, on aura les résultats directement du public avec les chiffres de vente, sans doute, quand il sera mis en vente. Et il faut quand même être parfaitement honnête. Il n'a pas besoin d'aller se battre complètement sur le terrain de l'iPod vidéo, de l'iPod Touch, par exemple, pour être un succès. Il peut tout à fait vendre quelques centaines de milliers d'unités et être considéré comme profitable et un succès. Donc, on verra ce qu'il donne une fois qu'il sera sorti. Et on le répète, pour un lecteur MP3 et un lecteur vidéo, c'est une excellente, excellente machine. L'autre chose qui risque d'arriver en 2010, alors là c'est beaucoup plus des rumeurs, mais ce sont des rumeurs persistantes et on revient vers Google, c'est le Google Phone. Alors évidemment vous savez que Android est disponible depuis quelque temps, hein, ce système d'exploitation, là encore un système d'exploitation mais cette fois-ci pour téléphone portable, et on a déjà entendu parler des Google Phone, le HTC, je sais plus, Touch, le Android machin et le Droid truc. Et bien là, ça serait un téléphone, mais qui serait développé, en tout cas le matériel, l'appareil en lui-même, serait développé selon les spécifications de Google. Donc ça serait un téléphone vendu sous la marque Google.
Un peu comme l'iPhone en fait.
Un peu comme l'iPhone est un téléphone Apple, là ça serait le Google Phone qui serait un téléphone Google. Et est-ce que ça peut donner quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est juste un Android de plus? Est-ce que quoi?
Moi, je pense que on l'a vu à de nombreuses reprises sur de nombreux appareils. Quand un constructeur ou un éditeur a la possibilité de faire du début à la fin, de participer du début à la fin à la conception de son produit, on a un produit fini qui est de qualité nettement supérieure à ce qu'on a dans un marché plus générique. Quand on regarde l'iPhone, quand on regarde le Zoom, quand on regarde une Xbox, une PS3, enfin, quand on maîtrise toute la chaîne, on a un produit qui est beaucoup plus fini. Donc, je pense sincèrement que Google n'est pas très reconnu pour avoir un sens du design particulièrement aiguisé quand on regarde Google Doc et leurs autres interfaces. Mais
c'est très simple, mais c'est fonctionnel. Il y a une simplicité, Ouais,
c'est le mariage finalement entre le device, entre l'appareil et le système d'exploitation. C'est là qu'est le pari qu'on décide de faire son propre appareil. Apple l'a fait brillamment avec l'iPhone, d'autres constructeurs également. Mais là, avec Google, on n'a pas d'antécédent. On n'a pas vraiment de. C'est la première fois que Google va se tourner vers la conception d'un device et on ne sait pas ce qu'ils donnent dans ce truc-là. Moi, je vois juste leur patte logicielle, efficacité. Mais je les vois pas trop dans le, comment on appelle ça, dans le user experience, dans
l'expérience utilisateur. Ça, voilà. C'est, tu t'anglicises.
C'est bien, on va ça. Bientôt ça va être un podcast en anglais, ça va être super.
Mais, non, en fait le mot que je cherchais c'était ergonomie, voilà.
Ah d'accord.
L'ergonomie de Google est pas toujours parfaite. Et donc j'ai un petit peu peur dans ce qu'ils vont faire avec ce Google Phone, mais en tout cas c'est une bonne chose. Je sais pas ce que c'était, mais voilà. Par exemple, le Google Android, là, le Droid, je le trouve vraiment pas exceptionnel. Je le trouve même très moche.
Le Droid, c'est pas designé par Google, donc
non, tout à fait.
On verra ce qu'ils donnent une fois qu'ils prennent les choses en main du début à la fin, quoi.
Ce qui sera intéressant, c'est de voir quelle est la politique de prix que le G-Phone aura. Si c'est un téléphone qui est gratuit avec une connexion gratuite, mais que derrière c'est un modèle de publicité, de trucs que. Enfin, la question c'est quelle innovation est-ce que Google va mettre en place autour de la politique de prix. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus que le device lui-même, les fonctionnalités, etc., etc. Parce que je suis d'accord que de toute façon, je crois qu'ils vont le faire en partenariat avec HTC, non? Ou ils le font tout seul.
On ne sait pas qui va le construire. Il est évident qu'ils ne vont pas le construire eux-mêmes. Ça sera un constructeur qui le fera pour eux. Mais on ne sait pas qui. D'après ce que je sais, on n'est pas certain.
D'accord. Donc, pour moi, la question intéressante, ce sera qu'est-ce qu'ils vont nous inventer autour du pricing.
Bon. Eh ben, on verra là encore. Et petite info au passage, le jour où le podcast sera transformé entièrement en podcast anglais, vous pourrez toujours aller sur Google Translate parce que ce service de traduction désormais parle et vous annonce directement comment se prononce la traduction des mots que vous avez tapés. Donc vous pouvez aller voir ça sur translate.google.com et il faut avouer que c'est assez impressionnant.
Ah, je vais l'essayer avec le créole, moi. On va voir combien il se débrouille.
Avec le créole.
Ça risque d'être marrant.
Bon, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu en créole de la PDC 2009?
Ok, ben pas du problème. Qu'est-ce que tu veux, c'est un foie même? Non.
Ah, j'adore.
On a perdu la moitié des auditeurs.
Ça rappelle les îles, ça fait du bien.
Pas du problème.
Effectivement, Google n'a pas été les seuls à faire une conférence en présentant leurs produits. Microsoft également, il y a à peu près une semaine, ils ont organisé ce qu'on appelle la PDC 09, donc PDC pour, je crois que c'est Professional Developer Conference, et c'est une conférence où Microsoft invite finalement tous les développeurs qui gravitent autour des produits Microsoft pour leur présenter finalement tous les derniers produits sur lesquels ils sont à travailler, tous les derniers outils qui sont destinés essentiellement aux développeurs pour les permettre de créer donc des applications beaucoup plus avancées, beaucoup plus next-gen et beaucoup plus rapidement pour leurs clients, quoi. Et y a vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées. Et ce qui était marrant, ce qui était surprenant même, c'est que à peu près 10 minutes avant que la keynote ait commencé, qui débarque sur le plateau, ben Loïc Lemaire. Je sais pas si vous avez peut-être pas vu la keynote qui était organisée par Microsoft, mais Loïc a carrément débarqué et a donc présenté en exclusivité pour cette PDC 2009.
excellent.
Dis-le en créole, ça ira plus. Ça.
C'est pareil en fait, les chiffres se prononcent de la même façon en français et en créole. Il a débarqué et en fait il a montré que par exemple Sysmic avait épousé donc les nouvelles technologies de Microsoft, en l'occurrence WPF pour ceux qui veulent savoir, et donc là il présentait un client Twitter qui était beaucoup plus mieux intégré finalement à l'OS, qui était beaucoup plus réactif, beaucoup plus léger que ce qu'on avait sur la plateforme R d'ailleurs que Microsoft attaque de façon frontale avec Silverlight, qui viennent d'ailleurs de déployer des voies.
Pour ceux qui ne savent pas, R, en gros, c'est une version plus indépendante de Flash. Donc, tous les petits jeux que vous avez sur Internet dans les pages web, les petits jeux en Flash ou les lecteurs vidéo en Flash comme YouTube, c'est un outil développé par Adobe qui vous permet de faire ça facilement. Et ben R, c'est la même chose, mais directement en logiciel sous Windows. Je sais pas si d'accord. Ça a été clair, mais...
Tu m'as un petit peu devancé, j'allais rapidement expliquer ce que c'était, effectivement, Adobe et Microsoft attaquent tous les deux cette portion où on a de plus en plus d'éditeurs qui doivent faire un choix quand ils développent un logiciel. Soit ils choisissent de le faire sur Windows, sur Linux ou sur macOS, et parce que le faire sur plusieurs plateformes, c'est problématique. Il faut recruter pratiquement deux fois plus de développeurs, ou sinon on fait le logiciel, on choisit la solution de facilité, on le fait dans le cloud. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs le cloud. Mais bon, voilà. La solution pour proposer un logiciel sur plein de plateformes, c'est le cloud. Et Microsoft et Adobe en premier lieu ont développé donc cette plateforme qu'on appelle R, qui permet aux développeurs de créer une application en une seule fois, et que cette application puisse être exécutée sur différents systèmes d'exploitation sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit. Donc Adobe était très en avance avec R, parce qu'ils l'ont développé avant, mais Microsoft, surtout avec le Silverlight 4 qu'ils ont présenté donc à cette PDC, ils rattrapent énormément le retard. Ils ont réussi à convaincre de plus en plus d'éditeurs pour passer sur cette plateforme, et c'est assez impressionnant de voir que finalement, en l'espace de 3-4 ans, même plutôt 3 ans, ils ont rattrapé Adobe qui ont pratiquement 10 ans d'expérience dans ce domaine. Donc maintenant, le pari, c'est plus réussir à... Maintenant qu'ils ont réussi techniquement à les rattraper, c'est plus réussir à convaincre les développeurs de dire, bon, ben, les gars, arrêtez de développer pour Adobe, venez avec les technologies Microsoft, vous verrez que vous pouvez faire pareil, sinon mieux, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Silverlight est plus léger que Flash. On le remarque sur beaucoup de sites. C'est pas pour faire de la promotion ou autre, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'est avéré. Et deux autres choses qui ont été annoncées pour cette PDC, c'est une nouvelle plateforme que lance Microsoft qui s'appelle Windows Azure, qui, alors très simplement, c'est juste pour permettre aux gens qui créent des sites web. Ils ont pris par exemple l'exemple de WordPress, le big boss de WordPress était là pour montrer qu'ils avaient basculé sur Windows Azure. Windows Azure, c'est juste une plateforme qui permet donc aux développeurs de publier leurs sites web, leurs applications web, leur service web sur cette plateforme qui est d'accord, qui est d'ailleurs pas limitée à Windows, hein. On peut installer de l'Apache, on peut installer du Java, on peut installer d'autres technologies. Et ce qui est particulier avec cette plateforme, c'est que Quand vous déployez votre service et que vous avez une parution, vous avez fait un site web et vous faites une parution sur Dignation ou sur un site qui a une très forte affluence et que subitement votre site est en train de s'écrouler parce que vous avez des milliers voire des millions d'utilisateurs en un espace de temps très réduit, vous allez juste sur le site de Windows Azure sur lequel vous avez déployé votre site et vous dites je veux rajouter X nouveaux serveurs. En trois clics, on peut accroître la charge que peut encaisser votre site. Et ce qui est génial, c'est que quand vous en avez plus besoin, une fois que le rush est passé, vous dites c'est bon, j'en ai plus besoin de ces ordinateurs supplémentaires. Donc arrêtez de me les filer, je veux plus les payer à nouveau. Alors que quand on prend un truc sur GoDaddy ou un autre hébergeur, quand vous décidez de prendre un cluster de quatre ordinateurs, vous vous engagez sur un an, deux ans et vous pouvez pas vous en débarrasser quand vous en avez pas besoin. Donc c'est ça qui est sympa avec Azure, c'est que vous avez un système, quand vous avez besoin de puissance, vous allez sur le site, vous dites « rajoutez-moi 4-5 serveurs pour que ce soit plus fluide » et quand vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les enlever et en plus c'est gratuit.
Ça a l'air super, mais ça va pas changer ma vie, moi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la réponse de Microsoft à Amazon, c'est-à-dire que ce que notre ami Yann vient juste de décrire, c'est ce que l'on peut faire sur Amazon Web Services, que ce soit S3 ou EC2 depuis maintenant 3 ans, et donc c'est ce qu'utilisent aujourd'hui 80-90% des startups qui se développent en Silicon Valley, parce que c'est ce qui te donne la meilleure flexibilité et surtout le rapport coût déploiement par rapport à une solution hostée chez un hébergeur. Et donc c'est la réponse de Microsoft, donc c'est pour eux la façon de retourner dans le jeu, parce qu'aujourd'hui Amazon a pris la quasi-totalité du marché, quoi.
Bon, une fois plus, Microsoft se lance à l'assaut de tous les marchés qu'ils voient autour d'eux et c'est pas à moitié, quoi.
C'est des marchés stratégiques, hein, parce que aujourd'hui, quand tu vois que en 3 ans, Amazon est devenue une infrastructure utilisée par des milliers d'applications, de services, que ce soit du consommateur, que ce soit de l'entreprise, alors qu'ils sont ils sont partis de rien le jour où ils ont dit on a un service web, ça s'appelle S3, vous pouvez louer du stockage en fonction de vos besoins et vous paierez au mégaoctets utilisé,
tout le monde disait quoi. Stockage, hein. C'est pas juste du stockage.
Ils ont commencé par le stockage. Ici tout, donc la partie computing est venue après. Hein. La première offre c'était S3. Hein. Après ils ont sorti ici tout. Et donc Microsoft a pris ça. S3,
non, S3, je comprends. Non, moi je connais.
C'est la puissance machine.
Jeff, moi je comprends, mais je crains juste que nos auditeurs ne suivent pas tous forcément nos conversations techniques.
Je voulais juste te répondre, Patrick, quand tu dis ça va pas changer ma vie, ça va pas changer ta vie à toi personnellement parce que t'es pas un développeur, mais tu vas avoir beaucoup d'applications de services qui vont utiliser ces services-là, parce qu'en fait la grande vision c'est quoi, c'est que un jour tu auras entre 5 et 10 fournisseurs de ressources comme ça distribués. Tu vas avoir Microsoft, tu vas avoir Google avec App Engine, tu vas avoir Amazon, tu vas avoir Rackspace, et après le boulot des développeurs d'applications un jour ce sera de dire où est-ce que je peux acheter mon heure de CPU le moins cher possible. Et tu auras des infrastructures qui auront bougé tes services de Rackspace chez Google en fonction du prix auquel ils te feront payer le quantum de calcul.
Au lieu d'avoir ton ordinateur bien défini quelque part, c'est ton serveur et voilà, il est là, il bouge pas. Et si tu en as besoin de plus, il faut payer sur 2 ans ou 3 ans.
Et voilà, exactement, t'as tout compris.
Et alors Yann, le dernier produit qui était présenté, qui est Dallas, c'est intriguant, je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Dallas, en fait, c'est le nom de code. Mais voilà, c'est juste une initiative que j'ai trouvée intéressante aussi. En fait, Microsoft est en train de mettre en place une plateforme pour permettre à différents sites, à différents fournisseurs de partager les informations qu'ils possèdent. Aujourd'hui, quand on veut faire une application, quand on veut faire un site web qui va, par exemple, intégrer une Google Maps, qui va intégrer une carte, on doit utiliser l'API de Google, on doit utiliser un langage particulier. Et chaque fournisseur, que ce soit Google, que ce soit la NASA, que ce soit, les podcasts, que ce soit les news ou n'importe quoi, chacun utilise son propre mécanisme de communication, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de créer une application unique ou un site web unique qui arrive à combiner toutes ces applications et fournir un service qui est vraiment riche. Et donc Microsoft a mis en place Dallas qui ou la NASA ou d'autres fournisseurs comme les services de livres là qui te lisent des livres, je sais plus comment ils te lisent le livre à haute voix,
c'est Audible,
ça m'échappe pas.
Audible.
Ouais. Voilà, Audible et d'autres sites comme ça puissent fournir leurs services, mais de façon uniforme et que ce soit beaucoup plus facile pour les développeurs de créer des applications beaucoup plus avancées. Donc demain, à l'issue de cette PDC 2009, ce que Microsoft est en train de nous dire finalement, c'est que demain, vous allez avoir des applications beaucoup plus riches qui, au lieu de vous fournir un seul type d'information, comme par exemple Outlook vous fournissait juste vos mails, ben demain vous allez pouvoir intégrer beaucoup plus d'informations au sein d'une seule application, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Outlook et le Outlook Social Network là, où directement au sein de Outlook vous allez pouvoir intégrer du Twitter, du Facebook, du Google Maps et toutes sortes d'informations extérieures qui n'est pas maîtrisée par Microsoft, et d'autres applications pourront en faire pareil quoi. Donc des applications beaucoup plus riches.
Moi,
donc
voilà. Tout ce que j'ai entendu de toute cette explication, c'était Dallas,
ton univers impitoyable.
D'accord, ok, très bien. Bon, ben, j'ai
peut-être... Ça montre qu'on n'est pas si jeune que ça.
Ouais, c'est ça. Je me disais, en fait, il y a la moitié de la chatroom qui n'a
qu'est-ce
pas vraiment compris.
Qu'est-ce que c'est, quoi, ces vieux. Moi, je voulais juste te dire une chose, c'est que pour un Frenchie, le père Loïc, de se pointer au milieu de la keynote de Réosi, le CTO de Microsoft, pour présenter Sismic for Windows, c'était top.
Ouais, c'était vraiment génial.
Content et fier.
On est super fier, ouais.
Ouais, surtout que la petite histoire, c'est que tout ça vient d'une longue conversation qu'on avait eue où on avait réalisé une nouvelle version de Sismic, la version R. On avait mis sur le marché une nouvelle version du produit sur R, et je passais mon temps à hurler sur Loïc en disant c'est un veau, ça rame, c'est moche, qu'est-ce que tu branles, etc. Parce que c'est la relation qu'on a entre lui et moi, parce que je suis un de ses investisseurs, donc je passe mon temps à faire chier. Et in fine, le résultat, plusieurs mois de travail après, acharné, il y a cette application Sismic for Windows qui est vraiment super excitante. Et donc, je suis très
content. Et elle sort quand alors?
Bah, elle est déjà disponible.
Tu l'as là?
Il y a une version preview qui est disponible. Tu peux
la version preview, pas vu. Moi, je suis encore sur la vieille version R. Ah, mais je vais downloader ça tout de suite.
Bon, bah voilà, voilà.
Juste après l'émission.
Il y a une autre chose dont on peut se réjouir aussi, c'est que, enfin, surtout vous, Français, c'est que UFC Que Choisir est en train de se pencher un petit peu plus sur le problème des offres de clés 3G offertes dans l'Hexagone, puisque ils ont réalisé que les fournisseurs, ben, ils abusent un petit peu de leur, c'est pas forcément très très clair quand ils vous font une offre, surtout l'utilisation du terme illimité. Et UFC Que Choisir est venu fouiller un petit peu là-dedans en disant que aujourd'hui on a plusieurs problèmes qui se sont révélés avec des gens qui ont reçu des factures de 46 000 euros, 26 000 euros. tu te rends compte, tu reçois une facture de parce que t'as utilisé pour, alors il y a une personne qui a reçu pour 160 000 euros en un mois parce qu'elle a téléchargé pour 350 gigas de données avec sa clé 3G, donc ça fait quand même 450 euros le giga, hein, donc ça fait extrêmement cher. Mais en fait, toutes ces personnes là qui ont reçu ces factures, c'est parce que elles ont pensé que illimité ça voulait vraiment dire illimité, donc elles pouvaient télécharger.
Ils sont débiles aussi, penser que illimité ça veut dire illimité, faut être,
ouais. C'est vrai, illimité, ça veut pas dire illimité du tout.
Et oui, mais c'est marrant, je passais devant une affiche pour, je crois que c'était Bouygues, mais ils sont tous pareils, hein. Je dis Bouygues parce que c'est celui que j'ai vu, mais il y avait genre internet illimité, et en dessous t'avais les petites précisions, genre internet illimité, sauf pour ça, et dans la limite de 500 mégas, et dans la limite de tant de trucs, telle vitesse, et voilà, et sinon, c'est plus, ça ne rentre plus dans le forfait.
Ouais. D'ailleurs, Jeff en a fait les frais également avec sa clé 3G illimitée, mais pas de Skype.
Exactement. Donc c'était non seulement pas illimité, alors... Le truc avec Bouygues Télécom, puisque c'était le fournisseur en question, eux te bloquent le trafic Skype, mais au minimum, ils font du vrai illimité. C'est-à-dire que si jamais tu dépasses, je ne sais plus si c'est 10 mégas et 2 heures d'utilisation par jour, ils te montent ton prix d'utilisation avec le forfait que j'avais pris à 8 euros par jour, mais que tu utilises 15 mégas ou plusieurs gigas, c'est un prix forfaitaire, donc c'est quasiment du vrai illimité. Et c'est ce que j'ai utilisé moi quand j'étais en vacances, où j'ai downloadé comme un sagouin, enfin parce que j'utilisais en fait Internet 24 heures sur 24 pendant mes vacances en France, et j'ai payé 8 euros par jour pendant toute la durée de mon séjour. Et franchement, c'était très raisonnable.
Ouais, donc, sauf que tu n'avais pas de Skype.
Sauf que j'avais pas de Skype, c'est vrai.
Voilà. Bon, en tout cas, il est clair que c'est pas plus mal que l'UFC que choisir mette ses petites mains là-dedans et nous arrange un petit peu les choses parce que on n'y voit pas très clair du tout. Et il serait pas plus mal que l'illimité soit véritablement de l'illimité ou que si ça n'est pas le cas, ils disent simplement c'est pas illimité, quoi.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, une autre de leurs demandes aussi, c'est que les fournisseurs mettent un système d'alerte beaucoup plus efficace. Parce que c'est pas normal que, tiens, à la fin du mois, tu reçois une facture de 250 000 euros pour ta clé 3G. Et donc, en fait, ils veulent. Ils disent, voilà quoi.
Le tarif monte à chaque fois. C'est, au début, c'était 14 000 euros, puis 56 000, puis 124 000.
C'est vrai.
Non, mais c'est pas normal que 14 millions d'euros, ça fait beaucoup trop cher pour avoir consulté un site internet. Je suis désolé.
Non, mais c'est véridique. Hein. Tu peux aller voir sur les sites. Il y a des gens qui ont reçu tes factures comme ça, quoi. Donc, voilà. Et ils veulent qu'on s'occupe de ça aussi.
Et ils ont bien raison. Et une autre chose sur laquelle on a bien raison, c'est qu'il est temps de passer à
la séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Notre séquence des rumeurs à la con. Merci encore à Cédric pour ces merveilleux jingles. Alors, je vais passer très très vite sur les rumeurs à la con et vous me direz à la fin si vous avez un truc que vous voulez commenter. Première chose, Bada, c'est encore un OS mobile, donc un petit peu comme l'iPhone, Android, etc. etc. Cette fois, c'est de Samsung. J'aurais tendance à dire, ça commence à faire beaucoup. Autre chose, Dell lance son smartphone bon marché en Asie et au Brésil. Dell revient sur le marché des smartphones après s'être planté sur les PDA il y a quelques années. Peut-être qu'ils auront un petit peu plus de succès. Un smartphone bon marché, ça peut être intéressant. Une chose importante, YouTube lance son lecteur 1080p, donc son lecteur véritablement haute résolution. Ça, c'est super important parce que YouTube est en train de plus en plus de s'intéresser à la diffusion d'images de vraie bonne qualité. Et ça, c'est très, très important pour l'industrie du cinéma et de la vidéo. J'entends quelqu'un qui veut dire quelque chose, non ?
Non, enfin, moi, je regarde ça, mais je me dis qu'ils abusent quand même, parce que ça veut rien dire, 1080p ou de l'HD. Enfin, je veux dire, faire de la HD sur ton portable, sur ton téléphone portable, ça veut rien dire du tout. Ce qui est important, c'est le débit et la qualité de l'image que tu reçois. Et il y a vraiment une différence entre la résolution qu'on propose et la qualité d'image que tu reçois derrière. Donc,
je suis d'accord.
Quand vous faites du 1080p, c'est pas du Blu-ray que vous allez avoir. Hein, donc,
non, mais je pense qu'ils jouent trop YouTube, sur ça. YouTube lance les fondations et il est évident qu'avec une image qui est à la base prévue pour être du 1080p, on va avoir une meilleure image que les images YouTube traditionnelles, super compressées. Donc ça reste compressé. C'est pas une image qualité Blu-ray, on est d'accord, mais c'est quand même de bien meilleure qualité que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et je sais pas si t'as vu les dernières vidéos de YouTube de bonne qualité, elles sont vraiment de bonne qualité.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas du Blu-ray.
On est d'accord. Une autre nouvelle un petit peu triste mais qu'on voyait venir, c'était ces fameux PsyStar qui sont ces constructeurs d'ordinateurs qui défiaient Apple en mettant macOS sur des ordinateurs qu'ils vendaient très bon marché, sur des sortes d'ordinateurs un petit peu limite piratés, des PC qui faisaient tourner macOS, donc le système d'Apple. Ils ont enfin eu le jugement qui a été rendu contre eux, et donc ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils faisaient. Apple a gagné et PsyStar va a priori disparaître, à moins qu'ils fassent Apple. C'était marrant. À moins qu'il fasse, bravo, à moins qu'il fasse appel.
À moins qu'il fasse appel.
À moins qu'il fasse appel, mais il faudrait vraiment qu'ils aient envie de se faire taper sur les doigts pour faire appel. Twitter est disponible en français. Si vous attendiez que Twitter soit dans la langue de Molière pour vous lancer, eh bien, vous pouvez désormais le faire puisque Twitter est en français.
C'est quoi, bon, la question ? Qu'est-ce que tu fais, connard ?
Non, la question sur Twitter. Pourquoi tout de suite tu deviens mal poli quand ça revient en France ? Il n'y a pas de raison. Et puis, bah voilà, il y avait deux, trois autres choses, mais on va passer à notre conclusion parce que je disais qu'on allait tenir peut-être en une heure et on dépasse déjà un petit peu, donc on va accélérer avec la statosphère de Guillaume qui, cette fois-ci, nous parle de choses qui nous concernent, nous, très directement, au lieu de nous parler des statistiques des grands groupes qui sont loin de nous. Écoutez, c'est tout de suite si ça se lance.
Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de deux services gratuits qui vous seront bien utiles si vous avez à cœur de maîtriser votre gestion du temps sur ordinateur. Ils se nomment Rescue Time et Manic Time. Moyennant un programme tournant en tâche de fond de votre Windows favori, ces deux services vont s'efforcer de lister tous vos faits et gestes pour en déduire de nombreuses statistiques. Parlons d'abord de Manic Time. Il se présente sous la forme d'un logiciel et analyse vos données localement. Il garde un historique détaillé à la seconde près de toutes les applications et pages web sollicitées. Et enfin, il est capable d'évaluer le taux d'activité de l'ordinateur sur lequel il est installé. Rescue Time à présent. Ces statistiques sont consultables exclusivement en ligne. Il est possible de taguer toutes vos activités, le rendant capable de mesurer vos taux d'efficacité ou de productivité en fonction d'objectifs. Vous aurez ainsi une vision globale de vos activités informatiques quotidiennes et peut-être prendrez-vous conscience du temps passé sur Word, Twitter, Facebook ou World of Warcraft. Retrouvez Rescue Time, Manic Time et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci Guillaume et merci pour cette... Donc merci Guillaume, c'est ce que je disais. Et vous pouvez retrouver donc, comme il le disait, sur statosphere.fr toutes ces informations et plus encore. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir combien de temps je passe sur Twitter, moi.
Moi, ça me rappelle le boulot. Ça. Au boulot, à chaque fois, enfin à la fin de chaque journée, il fallait faire ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire dire combien de temps on a passé sur telle et telle tâche. Et des fois, tu sais, je passais 3 heures sur Twitter ou à surfer et je pouvais dire comment je pouvais gonfler les chiffres des autres tâches.
Mais pour alors, que... Ouais, et ce qui est le pire, c'est que donc Rescue Time, c'est une boîte que j'avais regardée pour investir. J'ai décidé de pas investir, mais c'est des copains à moi qui ont investi. Et donc c'est un outil où tu vas dire bon, je me donne une demi-heure par jour sur Twitter, et au bout de 30 minutes et une seconde, si jamais tu es sur Twitter ou sur un des produits du genre Sismic ou TweetDeck, etc., t'as un gros pop-up qui va arriver au milieu de ton écran en disant ça y est, t'as dépassé ta limite.
Et là, tu pousses encore un petit peu, tu dis allez, un petit quart d'heure, allez. Non, mais c'est vachement intéressant comme application. Merci Guillaume.
Ben voilà, merci Guillaume. Et j'ai trouvé ça très sympathique qu'il nous parle de nos statistiques à nous, plutôt que, comme d'habitude, il le fait des grosses statistiques du monde, du monde de l'informatique. Donc, merci à toi. Et on est impatients d'avoir la prochaine statosphère, la prochaine fois dans le Rendez-vous Tech. Le site fantastique, je vais être super égoïste aujourd'hui. Je vais parler d'un site qui est à moi. Enfin, à moi et à Jérôme, et qui n'est pas vraiment un site, qui est un podcast. Bref, je vous la fais courte. La semaine dernière, Jérôme Kainborg, mon compère de Scuds et Zapcast, et moi-même avons lancé un nouveau podcast qui s'appelle Upload. C'est un excellent jeu de mots qu'il a trouvé lui-même. Et c'est un podcast qui est consacré entièrement aux applications, aux petites apps, des téléphones mobiles et principalement de l'iPhone, en tout cas dans un premier temps. Donc si vous avez un iPhone ou un iPod Touch et que vous voulez avoir des suggestions d'applications et des nouvelles sur l'actualité de l'iPhone et principalement donc des conseils pour les applications à télécharger, des applications testées et approuvées par Jérôme et moi-même, vous pouvez aller écouter Upload. Et vous savez quoi, c'est super simple parce que il vous suffit d'aller sur le site du Rendez-vous Tech, donc lrdv.fr ou frenchspin.com, et vous avez sur le même site les podcasts Upload, puisque c'est mon site à moi et que j'y mets tout ce que je fais. Donc voilà, je vous le recommande. Et
moi, j'ai écouté donc le premier épisode, j'ai trouvé vraiment super génial. Et puis surtout, je me suis senti moins seul.
J'ai peur.
Non, mais je me suis senti moins seul quand Jérôme a présenté une application. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui fait des, qui t'aide à dormir là en fait.
Maintenant, ouais, il y en a deux, ouais.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pour la petite histoire, avec ma femme, ça fait maintenant pratiquement 5-6 ans qu'on peut pas s'endormir sans mettre du son de pluie, en fait. Tu sais, donc en fait, j'ai fait sur Audition un montage en prenant des CD de nature et tout, où j'ai extrait juste la pluie, tu sais, j'ai fait un montage de 10 minutes parce qu'ils te mettent du piano et des violons, j'en veux pas, tu vois. Et j'ai construit comme ça un truc de 10 minutes pour me rappeler les Antilles quand la pluie, ça t'endort, en fait. Et tous les soirs, quand on va se coucher, on met ça sur l'ordinateur, sur un caisson de basse énorme avec des satellites partout. Et je te jure que c'est l'orage, c'est Twister chez nous. Il y a un vacarme, pas possible. Mais on peut pas dormir sans ça, en fait.
Oh, c'est mignon.
Voilà. Et quand ma, quand
un
ma mère.
Un petit peu inquiétant, mais mignon.
Ouais, oui.
Et quand ma mère est venue chez nous pour la première fois, on avait du mal, en fait, à lui expliquer. Bon, écoute, là, on va se coucher. On va faire un truc, mais faut pas flipper, hein. C'est normal. Et puis voilà, on le fait. Et puis on s'est senti un petit peu moins seul quand on a vu que Jérôme faisait pareil, en fait. Donc ouais, voilà, très bon podcast et on s'est bien marré.
D'accord.
Rappelle-moi, Yann, la prochaine fois que je suis chez toi, de rester à l'hôtel. Merci.
D'accord, j'essaierai.
Donc voilà, c'est Upload. Vous pouvez aller sur. Attends, que je dise pas la mauvaise URL. Je crois que c'est app-load.com pour être redirigé au bon endroit. App-load.com, est-ce que c'est ça? Je suis en train de tester en direct. Et oui, ma mémoire n'est pas totalement défaillante. App-load.com, ça vous amène là où il faut pour écouter ce premier épisode. Le deuxième épisode sera disponible lundi prochain, puisqu'on alterne avec le rendez-vous tech. Le conseil logiciel de cette fois-ci, c'est Yann qui nous l'apporte. Je me demande si on n'en avait pas déjà parlé de cette de ce petit logiciel. Mais vas-y, c'est pas grave.
T'es sûr? C'est bizarre.
Je sais plus. Vas-y.
En fait, le logiciel, c'est très rapide. Hein. C'est un logiciel qui s'appelle Hotspot Shield. Et c'est un logiciel qui est très pratique parce qu'il va vous permettre de surfer de façon sécurisée et de façon totalement anonyme sur le web. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que vous ne soyez pas identifié sur le web par votre fournisseur d'accès Internet, que ce soit Free ou Alice ou n'importe qui. Et ça vous permet également de ne pas tomber sous l'influence des restrictions qui auraient été mises dans votre pays ou par votre fournisseur d'accès. Et donc, une des conséquences directes de l'utilisation de ce logiciel, qui au passage est gratuit, c'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité de tester des services qui sont disponibles uniquement aux Américains comme Hulu ou Pandora. On en a parlé de temps en temps sur le rendez-vous tech. Donc, si vous voulez vous faire une idée, donc, finalement, de ces deux autres sites qui pourront faire aussi office de site fantastique pour cet épisode, Hulu et Pandora, installer Hotspot Shield, ça vous permettra donc d'accéder à ces sites, même si vous y accédez à l'extérieur des États-Unis. Donc voilà, on vous mettra le lien.
C'est très gentil. Et pour terminer, on va vous lire très rapidement une petite review sur iTunes, un petit commentaire sur iTunes. Je prends le dernier au hasard. Hop, c'est... Oh, quel jeu de mots. Owkill a dit « Take me on ». C'est marrant, non? Tech, le rendez-vous tech, machin. Comme à leur habitude, Patrick et ses amis nous concoctent deux fois par mois une excellentissime revue de l'actualité tech. Alors que faire de moins que de recommander? Allez, on retweet tous en cœur. Et c'est promis, c'est pas réservé seulement aux geeks. Merci mille fois Owkill. Si, comme Owkill, vous voulez nous filer un petit coup de main, très simplement, vous pouvez aller sur l'iTunes Store et laisser un commentaire sur la page du rendez-vous tech. Ça nous aide à gagner en visibilité et donc ça nous aide à remonter dans les classements iTunes. C'est que du bon pour tout le monde. C'est tout pour cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer un commentaire à l'adresse email tech@frenchspin.com. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et commenter sur le blog, disponible sur lrdv.fr ou directement sur le site central frenchspin.com. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, puisque évidemment Twitter est devenu incontournable. Vous savez que chaque semaine, j'ai au moins deux ou trois personnes qui m'envoient un message en @Patrick, enfin @NotPatrick, en disant « Ah, grâce à toi, je me suis mis sur Twitter, bonjour, comment ça va, etc. » Donc, je leur souhaite la bienvenue, évidemment. Mais chaque semaine, ça continue, il y a quelques personnes qui s'y mettent parce qu'on l'a tellement mentionné dans cette émission, donc on vous salue au passage. Et moi, c'est NotPatrick, Donc vous pouvez me suivre sur Twitter de cette manière. Et je vous passe la parole l'un après l'autre. Jeff, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter et ailleurs ?
Jeff.
Bon, c'est facile.
Jeff, twitter.com/Jeff, et autrement, softtechvc.com, c'est ce que je fais au jour le jour.
C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont une super start-up et qu'ils veulent te contacter pour te faire investir, ça se passe comme ça, ils t'envoient un email à travers les adresses sur softtechvc, ou il y a d'autres étapes par lesquelles ils doivent passer ?
Alors la façon la façon la plus recommandée, c'est de trouver quelqu'un qui connaît l'entrepreneur et qui me connaît, qui va faire une introduction typiquement par email pour dire tiens, voilà un entrepreneur que je connais qui fait quelque chose d'intéressant, tu devrais jeter un coup d'œil.
Je voulais te faire flouder ton adresse email. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux m'envoyer un email à moi pour que
voilà.
Je te...
Exactement. Parce que tu as sur mon email, tu as sur mon site web un truc genre contact ou pitches@softtechvc.com, mais c'est toujours bien mieux pour les entrepreneurs de trouver quelqu'un qui va faire cette introduction. Donc demandez à Patrick de m'envoyer un email, mais ça sous-entend que Patrick connaisse l'entrepreneur et que Patrick puisse dire quelque chose d'intelligent à propos du produit.
Bon, donc déjà là vous avez un problème, parce que pour que je dise quelque chose d'intelligent c'est mal barré.
Donc, si Patrick et donc c'est la façon dont la plupart des introductions se font, c'est par le biais de notre social graph.
Networking.
Mais de toute façon, je veux dire qu'à chaque fois que je suis rentré dans un réseau social, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit un peu tout et n'importe quoi, j'ai toujours des entrepreneurs qui viennent me chasser dans ces endroits-là pour dire hey, machin, j'ai une startup, t'as pas des sous. Et c'est pour ça que je ne donnerai jamais le nom de mon caractère sur WoW, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me faire un whisper en disant hey, j'ai une startup, tu peux avoir des sous.
Et si jamais, alors moi j'ai une autre proposition à te faire qui serait plus intéressante, c'est moi j'ai pas de startup mais je veux des sous quand même, est-ce que ça marche?
Vas-y, fais-moi des sous que je crée une start-up, en fait.
Tu as quelque chose qui s'appelle un banquier.
D'accord. Tu peux bon, bah, j'irai voir le mien. Et toi, Yann, alors, sur le web et ailleurs?
Ça a pas changé. C'est toujours Yann Allais, YANALET sur Twitter. Et puis, yannallais.com pour mon site web si vous voulez voir les produits sur lesquels je travaille. Et puis, ouais, c'est à peu près tout.
Eh ben écoutez, merci à tous les deux. Merci mille fois à la chatroom d'être présente comme d'habitude. On vous dit à très bientôt à tous et on vous fait de grosses bises. Ciao, ciao.
Salut.
Au revoir tout le monde.
T'aurais dû parler un petit peu plus en créole. En
créole. Bon, chaque fois là, qui essaye pas les créoles basotes.
Ah, c'est trop fort.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.